Quand j'étais au lycée, pour moi, les profs, c'était des poupées de cire. Enfin, c'était des gens qui n'avaient pas d'existence en dehors de l'établissement scolaire. J'avais un respect immense, vraiment un respect et une crainte de mes enseignants. Et je pouvais pas m'imaginer qu'ils avaient une vie en dehors du travail, qu'ils avaient des enfants, qu'ils avaient des loisirs, une maison, un mari, qu'ils partaient en vacances. Pour moi, un prof, c'était quelqu'un qui était en dehors du monde et de la société. Je trouvais ça dommage parce que finalement, moi, je ne me serais pas permise de communiquer avec eux, pas vraiment non plus avec moi ou avec nous. Et je sais que quand je suis devenue enseignante, je me suis fait la promesse que je ne serais pas comme ça. Que je serais quelqu'un qui serait proche, qui aurait un vrai contact et qui ne serait pas juste une fonction, quelqu'un avec, voilà, avec un masque devant ses élèves. Moi, j'ai tendance à leur dire facilement, tout début d'année, qu'ils peuvent venir me parler, que je ne suis pas une icône et que je suis avant tout une personne et que s'ils ont besoin de se confier ou qu'ils ont des soucis, quel que soit l'ordre de ces soucis, ils peuvent venir m'en parler. Et donc, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore d'être en lien avec des élèves avec des comportements suicidaires, par exemple, ou des élèves qui sont complètement en rupture familiale. C'est difficile de faire la part des choses. On ramène le travail dans sa sacoche et on finit par ne plus savoir où est la limite entre le professionnel et le privé. En gros, je dirais que c'était en 2015 où j'ai vraiment craqué. J'avais une classe de 6e dans laquelle il y avait une élève qui était complètement mise à l'écart. Les autres se moquaient d'elle, elle se mettait elle-même en retrait. Et j'ai essayé à plusieurs reprises de l'aider. Et en fait, je me suis vraiment heurtée à un mur. J'avais l'impression que finalement, c'était moi qui m'inquiétais et qu'en face de moi, il y avait juste de l'incompréhension. Cette élève, elle n'a pas compris pourquoi je m'inquiétais pour elle. Elle a assez mal pris la chose. Et là, je me suis dit, pourquoi tout ça, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, on est face à des situations et on n'a aucun pouvoir. On n'est pas utile. On sert à rien. Et ça m'a complètement ébranlée dans la foi que j'avais dans le métier, et particulièrement dans l'aspect social de la profession, finalement. Et puis, j'ai convoqué cet élève-là, qui était, à mon avis, en souffrance. Hein. Je l'ai convoqué à la fin de l'heure. Et puis, donc, je me suis heurtée vraiment à un mur. Hein. C'est tout juste si elle m'a répondu. Et je suis sortie faire une pause dehors. Et là, je me suis effondrée, en fait. Je me suis mise à pleurer. Et puis, il y a des collègues qui sont arrivés, qui m'ont demandé ce que j'avais. Donc, sur le coup, j'étais incapable de formuler une réponse cohérente. En plus, ça avait l'air tellement anodin. C'était difficile de résumer tout ça en quelques mots. Puis finalement, c'est une des assistantes d'éducation qui m'a dit écoute, j'appelle le cabinet médical, je te prends un rendez-vous, tu remontes pas en cours, c'est hors de question, il faut que tu t'arrêtes, t'es épuisée, t'es fatiguée. Et certains collègues m'ont dit tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu considères que quand tu vas travailler, tu enfiles ton uniforme et tu quittes ton uniforme à la fin de ta journée. Et je leur ai dit, mais moi je suis incapable de me scinder en deux. Je peux pas mettre d'un côté l'enseignante et de l'autre la personne humaine. Moi, quand je suis devant mes élèves, je suis comme je suis dans la vraie vie. Ils le savent d'ailleurs, sans masque, sans phare. Et puis voilà, donc je me suis fait arrêter. Bon, pas longtemps parce que c'est aussi difficile de couper. Et j'avais mis à profit cette semaine où je me suis arrêtée pour dormir beaucoup déjà. Et c'est vrai que je suis allée voir sur des forums, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai lu des témoignages de collègues qui avaient quitté l'enseignement, d'autres qui comptaient le faire. Ça a été vraiment le doute à cette période parce que je me suis dit, d'un côté, c'est vrai que ça fait envie d'envisager complètement autre chose. Un métier sans cette pression, avec des coupures franches entre la vie professionnelle et la vie privée. Puis d'un autre côté, je me suis dit, on va où si tout le monde quitte le bateau, finalement? Si tout le monde abandonne, si tout le monde baisse les bras, qui va rester sur place? Mais maintenant, si je devais me prononcer, je dirais que j'ai complètement accepté l'idée que je vais rester prof. Le déclic, c'était en 2016. C'était donc une élève qui était en classe de 3e. À l'époque, j'avais deux classes de 3e. Une avec laquelle ça marchait de manière extraordinaire. Tout était facile, tout était acquis. Et puis l'autre où, là, c'était compliqué. L'alchimie s'est pas faite entre eux et moi. Alors, il y avait un climat désagréable qui se créait parce que moi, j'étais mécontente. Du coup, ils se disaient, la réaction typique des élèves, hein, la prof nous aime pas. Et alors ça, quand ils se sont dit, la prof ne nous aime pas, c'est fini. Là, il faut vraiment sortir les rames pour avancer. Et moi, de mon côté, je me disais aussi, ils aiment pas venir en cours avec moi. Pourquoi? J'échangeais beaucoup avec d'autres collègues qui, eux, trouvaient que c'était une classe sympathique. Donc forcément, je me disais, mais qu'est-ce qui va pas avec moi? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Et j'ai complètement focalisé sur cette classe. Surtout que l'année d'avant, donc j'avais eu cette rupture vraiment professionnelle et puis ce burn-out. Et donc j'allais vraiment avec eux en me disant comment ça va se passer cette fois-ci encore, quoi. Et au milieu de cette classe, il y avait une élève qui était très douée, dans toutes les matières et puis en allemand particulièrement, mais qui ne participait pas. Il fallait toujours que j'aille la chercher. J'avais remarqué aussi qu'elle était beaucoup en retrait, mais qu'elle avait cette façon de pas vous lâcher du regard finalement, d'être toujours là, ce qui fait qu'on se sentait attiré. Et puis quand, par exemple, il y avait des moments d'agitation dans la classe, je savais qu'elle, je pouvais, si je croisais son regard, ça allait m'apaiser, parce que je me disais, il y en a quand même quelques-uns, au moins une en particulier, qui écoute, qui s'intéresse, donc c'est pas fichu. Je me suis renseignée sur elle, je trouvais qu'elle avait quand même souvent l'air triste et elle demandait aussi régulièrement à sortir de la classe. Alors on a eu une période où il y avait beaucoup de jeunes filles qui faisaient des crises de spasmophilie, donc au bout d'un moment on a fini un petit peu par être un peu blasé à se dire bon d'accord, allez, encore une qui fait des crises de spasmophilie. Mais elle devait quand même sortir assez régulièrement, puis on voyait que des fois elle avait l'air de paniquer. Et puis là j'ai appris en fait qu'elle avait vécu un drame familial. Elle avait perdu son papa quelques années auparavant, de manière assez brutale. Et puis dans la foulée, elle avait perdu son oncle. Et donc elle était très marquée par ce décès. Elle était très très proche de son père. Et je me suis dit, je vais lui écrire un petit mot pour lui dire que j'ai l'impression qu'elle va pas bien et que si elle veut. Je suis là si elle a besoin de parler. Et donc je lui ai écrit effectivement un courrier assez court que je lui ai donné en fin d'heure. Donc elle était surprise. Et elle est repartie. Et puis au cours suivant, c'est moi qui ai eu la surprise de me voir remettre une lettre. Une première lettre, parce qu'il y en aura eu beaucoup d'autres après. Dans ma lettre, je pense que j'avais dû lui expliquer que je pouvais comprendre éventuellement sa détresse parce que moi aussi je savais ce que c'était que de me retrouver dans une situation inconfortable ou une situation de détresse. Et donc quand elle m'a répondu, elle m'a dit que oui, effectivement, elle l'avait perçu. Et on a commencé à avoir un échange finalement là-dessus et à se consoler, à donner un retour à l'autre finalement sur les impressions. Elle me disait, je crois, des choses que tout enseignant aimerait entendre, quoi. Alors, au début, elle m'appelait par mon nom, en mettant souvent Cher. Voilà. Et puis maintenant, elle met mon prénom quand elle m'écrit. Je pense que nous avons beaucoup progressé grâce à vous et à la passion que vous mettez dans votre travail, avec une implication hors pair et de la combativité afin de nous faire vibrer au rythme de vos idées, défendues avec fierté. Je pense que rares sont les professeurs qui s'impliquent autant que vous. Aussi, je vous admire d'autant plus pour ça. J'ai pensé chacun des mots que ma plume a alignés sur papier, et je pense être quelqu'un d'assez lucide pour voir que vous êtes réellement et profondément quelqu'un de bien, que ce n'est pas qu'une façade. Je pense que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Je le conçois et le comprends très bien. On ne peut pas dire que sur ce plan, je sois un modèle. Vous faites ce qu'il faut pour nous. Et ne vous croyez pas ordinaire, car ce n'est pas le cas. Je me suis dit, si elle arrive à voir ça, c'est que vraiment je dois renvoyer quelque chose, je dois rayonner quelque chose. Et donc je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas si inutile ce que je fais. Finalement, non, notre métier, c'est peut-être pas nul. Et oui, peut-être que qu'on a vraiment une utilité pour des jeunes. C'était vraiment ça, elle mettait l'accent sur le fait que je leur apportais humainement quelque chose. C'est ça qui est extraordinaire dans cette relation, c'est que finalement, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, quoi. On tend la main à quelqu'un parce qu'on a l'impression qu'il a besoin d'aide, et puis en fait, on le fait parce que soi-même on a besoin d'aide, et qu'on se dit, ce serait tellement, tellement bon d'avoir quelqu'un qui nous tend la main. Et là, ça se produit, c'est magique. Puis ce qui était magique, c'est de se dire, finalement, ça vient d'une personne qui a la moitié de mon âge, qui n'a pas l'expérience que j'ai, qui n'a pas le recul que j'ai, mais elle en sait presque autant, et puis elle a trouvé les mots. Finalement, c'est ça, on pourrait résumer ça par le pouvoir des mots, hein, cette relation épistolaire.